15 Français ont reçu le prix Nobel de littérature depuis sa création.
Et on est allé mettre tout le maître.
Il va essayer de transformer sa propre réalisation.
Essai !
Essai ! Magnifique coup de pied par-dessus la défense.
Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre, d'un texte écrit par un homme qui a été célèbre pour un roman, surtout pour ce roman, alors qu'il a eu une production littéraire absolument fantastique, c'est George Orwell et ce fameux roman 1984 qui a été décrit comme par ses lecteurs comme un roman anti-totalitaire. Le texte dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui a été donc publié il y a quelques années et qui s'appelle George Orwell, écrit politique 1928-1949. L'intérêt de ce texte, c'est qu'il montre un petit peu l'évolution de la pensée de Orwell, en passant par, évidemment, son implication dans la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole, des appels des années 40-41 à la révolution en Angleterre pour gagner la guerre contre Hitler, la condamnation radicale de l'impérialisme britannique en Inde et en Birmanie, des réflexions sur le socialisme et la démocratie, critique des intellectuels et de leur fascination pour le pouvoir, et puis le bilan de l'expérience travailliste d'après-guerre, etc., etc. Donc ce livre inclut des essais méconnus, mais qui furent des jalons importants dans l'élaboration de ses conceptions sur l'individu, l'État et la société, comme culture et démocratie. Les socialistes peuvent-ils être heureux, ou la révolte intellectuelle? Donc je vais vous lire quelques petits extraits qui semblent tout à fait significatifs, et j'ai choisi pour ça un des derniers chapitres de ce texte. Alors je vous signale, je vous rappelle que ces textes étaient inédits en français parce que sa veuve, Sonia, qui ne partageait absolument pas et qui n'appréciait pas du tout son positionnement politique et idéologique, avait bloqué ces textes et qui, heureusement, maintenant, ont pu être publiés. Alors les deux ou trois petites lecture que je veux faire de ce livre assez imposant, hein, qui fait plus de 400 pages, c'est sur la révolte des intellectuels et qui vous rappellera sans doute la chronique de la semaine dernière où effectivement j'avais évoqué le positionnement sur ce sujet d'un intellectuel américain sur lequel je me suis un petit peu étendu donc il y a de ça une semaine. Alors je vous lis ça. Ce que disent aujourd'hui les écrivains, les artistes, scientifiques et les philosophes est une indication des évolutions futures plutôt que présentes. La puissance croissante de l'État produit, comme nous l'avons vu, un grand désarroi, particulièrement chez ceux qui, il y a à peine 10 ou 20 ans, il faut dire que ce texte a été écrit à la fin des années 40, hein, il y a presque 10 ou 20 ans, le socialisme était la garantie du progrès. Mais cette idée n'a jusqu'à présent touché qu'une partie du public. La magie que des concepts tels que nationalisation et planification possèdent aujourd'hui et l'idée que presque tout le reste peut être sacrifié pour obtenir la sécurité économique en voûte, encore les masses. Et ces concepts vont sans doute continuer à gagner en puissance. On considère toujours qu'il est hérétique de rejeter la version matérialiste du socialisme, tout comme il était hérétique de croire au socialisme il y a 30 ans. Deuxième petit extrait complémentaire, toujours dans le même chapitre sur la révolution intellectuelle, ou la révolte intellectuelle, pardon. Ces intellectuels, qui sont aujourd'hui des rebelles, ne souffrent pas de difficultés économiques, parce que presque tous les intellectuels vivent mieux maintenant qu'auparavant. Dès qu'il a répondu à ses besoins les plus urgents, l'intellectuel se rend compte que ce ne sont pas tant l'argent et le statut social qui lui manquent que la liberté, ainsi qu'un monde que la machine n'aurait pas détérioré et qui aurait encore une âme. Voilà ce qui compte réellement. La quête de ces choses l'incite évidemment à aller à contre-courant. La question que se pose donc, les masses vont-elles un jour se rebeller de la même façon? L'homme de la rue sentira-t-il jamais que la liberté d'esprit est plus importante et qu'elle a tout autant besoin d'être défendue que son pain quotidien? Et enfin, dernier petit extrait ramène, disons, à l'essentiel, c'est « il est impossible ici d'essayer de savoir quel type d'idée prévaudra. Mais tous les intellectuels, qu'ils s'opposent à la centralisation et à la planification ou qu'ils acceptent une société ainsi organisée, désire lui donner un visage plus humain, qu'il soit des croyants et qui pense qu'une véritable réforme ne peut se faire sur la base d'un enseignement chrétien orthodoxe, ou bien qu'il soit opposé à tout la machine gouvernementale et qu'ils veulent ou qu'ils veuillent simplement mener une vie simple et naturelle, tous ces gens ont une chose en commun, leur opposition à la tyrannie de l'État. Que tant d'esprits dans tant de pays soient d'accord avec ça nous permet de conclure que la centralisation et le contrôle bureaucratique, même s'ils sont florissants, aujourd'hui ne pourront pas croître indéfiniment. Décidément, un texte qui a 70 ans et d'une actualité extrêmement brûlante. Bonne lecture.